Rebonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Conduite Antisportive à Schiste 94 Toi. Ici Shannon Duff à l'animation. Je suis en compagnie de Félix Lajoie aujourd'hui. Comment ça va, Félix?
Ça va très bien, toi?
Ah, ça va, ça va. Il y a beaucoup de choses à parler dans le monde du sport cette semaine, mais on va commencer par le CF Montréal, ton domaine d'expertise, Félix. J'ai fait mes recherches. Ils ont eu leur première victoire, aussi leur premier but dernièrement dans leur dernière partie, la première à domicile, si je ne me trompe pas.
Ouais, exact.
Peux-tu m'en dire plus sur le match?
Ben écoute, match au Stade Olympique, il y avait beaucoup de personnes, on sait que c'est une grande place, là. Il y a beaucoup plus de partisans qui peuvent rentrer qu'au Stade Saputo, fait que l'ambiance était quand même assez bonne, puis bon, ça a bien commencé, comme tu as dit, ils ont marqué le premier but là, après deux minutes sur un penalty. Kyoto, le meilleur joueur l'année dernière, le meilleur buteur l'année dernière qui a marqué. Fait que là, tout le monde était un peu content, là, tu sais. Il avait scoré. Puis tu t'en parlais aussi, tu disais qu'il bon, il était pas très bon, mais bon, ils ont marqué. Fait que là, tout le monde était content, mais par la suite, Philadelphie, qui est une très grosse équipe, sont revenus dans le match. En fait, ils ont dominé un peu en fin de mi-temps. Puis, en commençant à mi-temps, ils ont marqué deux buts très rapidement. Fait que là, le CF Montréal perdait. Ça a été compliqué de revenir. Finalement, Philadelphie a un carton rouge, donc Montréal attaquait à 11 contre 10. Ben, en fin de match de fou, là, je sais pas si t'as vu, il y a eu un carton rouge pour Philadelphie, par la suite, le CF Montréal a marqué. Ils sont allés voir le but à reprise vidéo, ils l'ont refusé, puis après ça, l'arbitre a dit, OK, retourne voir la reprise vidéo, puis là, ils ont donné le but, donc là, c'était fou, puis juste après, le CF Montréal a marqué, donc, en deux minutes, ils ont marqué deux buts pour gagner dans les arrêts de jeu, donc il restait, trois minutes au match, puis le CF Montréal a marqué pour gagner. Donc vraiment, c'est l'Olympique qui a capoté, en fait, c'est le terme à dire, tout le monde était fou de joie, tout le monde a sauté, puis trois buts pour le CF Montréal dans ce match-là. Sachant qu'ils nous avaient marqué aucun but lors des trois premiers matchs, bon ben là tout le monde est un peu content, tout le monde reste peu, puis bon peut-être que c'est de bon augure pour le reste. On passe en bas trop vite là.
Oui, j'ai vu ça, le truc de review, mais peux-tu m'expliquer un peu? J'imagine, ils ont-tu le droit de faire ça? Ou ben, de ce que j'ai compris sur Internet, c'est qu'ils n'avaient pas vu dans l'extrémité le joueur de Philadelphie qui faisait que le joueur de CF Montréal n'était pas hors jeu, si je me trompe pas.
Ouais, exact, c'est ça. Dans le fond, la vidéo, c'est la vidéo assistant referee, elle est là pour donner en fait un peu de boost de jeu en fait aux arbitres pour que quand il y a une situation un peu difficile à coller, bon, il aille la voir. Donc il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui dit OK, va voir le but, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un hors-jeu. Donc au début, il y avait hors-jeu clair sur l'image qu'ils ont montré à la ligue, c'est-à-dire que le joueur qui était au fond de l'écran qui couvrait l'hors-jeu, on le voyait pas dans l'image. Là après par la suite, l'arbitre assistant lui au début, il a pas levé son drapeau parce qu'il a vu ce joueur-là. Donc là l'arbitre assistant, il a dit en quelque sorte il a tout un micro, il a dit OK, retournez voir le but, il y avait quelqu'un devant moi. Donc là, l'arbitre est retourné au moniteur voir le but, puis là cette fois-ci, ils ont sorti l'image avec le joueur qui était en position qui couvrait en fait le hors-jeu. Donc là, c'était facile, c'est une décision sans équivoque. Il y avait pas d'hors-jeu, donc du coup le but a été bon, mais en quelque sorte, c'est un peu con parce que tu sais au hockey quand tu regardes la reprise vidéo, c'est clair à chaque fois là, tu sais. Des fois la décision après certains temps, puis tu peux OK, peut-être que finalement il y avait peut-être un but, peut-être qu'il n'y en avait pas. Des fois c'est difficile à choisir, mais là, c'est juste l'image qui était pas bonne, puis aller voir deux fois pour te réviser. Au début tu donnes le but, après tu le donnes pas, après tu le redonnes. Ça n'est pas vraiment professionnel, puis dans le hockey, dans les autres sports, que les reprises vidéo, ça arrive pas ces affaires-là, donc c'est juste un peu, c'est dommage. Ça fait pas longtemps que ça a été implanté, cette règle-là, d'aller voir la vidéo, mais on dirait que la règle, à chaque fois, il y a des problèmes avec, puis tout le monde se tire dans le pied un peu avec cette reprise vidéo-là, alors qu'elle devrait aider les arbitres, là, mais bon.
Mais comme l'entraîneur de CF Montréal l'a dit, au moins, ils ont pris la bonne décision au final, c'est mieux qu'il y ait... qu'il ait switché, parce que imagine, il avait enlevé le but puis il était clairement bon. Donc ça, les fans au stade olympique n'auraient pas été contents. Pourquoi ils ont joué au stade olympique cette partie-là, est-ce que tu le sais?
Ouais, parce que dans le fond, au stade Saputo, ben il neige dehors et tout, fait qu'il est pas vraiment prêt. Puis là, d'habitude, ils essaient d'accommoder là, le CF Montréal, ils les font jouer à l'étranger au début. Donc ils leur font jouer leurs trois games à l'extérieur, mais là maintenant il faut qu'ils viennent jouer au stade, faut qu'ils viennent jouer à Montréal un peu pour équilibrer tout ça, puis faire les cédules. Donc là généralement ils ont un ou deux matchs au stade olympique, puis là cette année je pense qu'ils vont en avoir deux là. Fait que en avril ils vont sortir au stade Saputo, mais c'est quand même un peu la seule équipe de la MLS qui fait ça là. Puis les joueurs aiment pas ça jouer au stade olympique parce que c'est un synthétique, fait que c'est plus dur pour les genoux, c'est plus dur pour les appuis. Puis les joueurs européens, ben en Europe en fait tous les terrains c'est des naturels, même ici un peu aussi. Fait que tous les joueurs européens, ils viennent jouer ici, ils haïssent ça, jouer sur un synthétique, ils se blessent, tout. Puis il y en a plein qui veulent juste pas jouer sur des terrains comme ça. Fait que ça avantage un peu Montréal en même temps, c'est peut-être pas le meilleur terrain pour jouer, là.
Penses-tu que les matchs à domicile qui s'en viennent vont peut-être donner espoir pour la saison qui avait mal commencé pour le CF Montréal?
Ouais, moi je pense que oui, parce que bon, là, on a joué le premier match à domicile, on a gagné. Puis il y avait une statistique, les trois équipes, en fait, qui n'avaient pas de victoire cette année à MLS, c'est trois équipes qui avaient joué à l'étranger tout leur premier match. Mm-hmm. Donc c'est difficile de gagner au sport à l'étranger de base. Puis au soccer, encore plus, quand tu joues dans des stades qui sont pleines capacités, ben c'est très dur. Puis là, surtout au stade olympique, il y avait beaucoup de partisans, ça a joué un peu dans la tête des Philadelphia lorsqu'ils se sont fait marquer l'égalité. Donc je pense que justement au stade Saputo, en plus, bon, les billets cette année, les billets de saison, il y a une grosse hausse à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de partisans pour les matchs. Puis ça va vraiment aider. Quand tu joues devant tes partisans, ça aide beaucoup. Puis encore là, il y a plein de matchs à la maison. Donc c'est plus facile pour les voyagements et tout. T'sais, des fois, il faut que tu voyages à Austin, à Los Angeles. Là, tu es toujours à la maison. Donc je pense vraiment que ça va aider. Puis surtout que les trois premiers matchs de saison, c'était contre des gros adversaires. Là. Miami qui est pour l'instant dans les tops dans l'Est. Austin qui est toujours une très bonne équipe. Puis Nashville qui est également une très bonne équipe. Donc c'était compliqué. Puis Philadelphie, c'est quand même les finalistes de l'année dernière. Donc c'est vraiment un bon résultat à prendre. Trois buts en plus. Je dis pas que toute l'année ça va être comme ça. Moi, je suis encore de la même avis qu'au début. Je pense qu'ils vont faire les séries, mais à la limite, ben là, ça reste que ça commence bien avec une victoire. Là.
Mm-hmm. Le prochain match, est-ce que tu sais c'est quand?
Ouais, le prochain match c'est samedi contre Vancouver, ça va être dans l'Ouest. Donc je pense que c'est vers 10h30. Vancouver qui est une équipe qui en début de saison joue deux compétitions, donc ils jouent la Ligue des Champions contre CACAF, puis également la MLS, donc beaucoup de rotation à faire à ce niveau-là. Puis c'est une équipe qui deux premiers matchs de l'année, ils menaient, puis ils sont fait remonter après, donc c'est compliqué, mais c'est quand même une bonne équipe qui est à la portée de Montréal là, c'est des équipes qu'ils ont affrontées depuis le début de l'année, c'est la moins bonne. Donc, on peut espérer une victoire, mais bon, à Vancouver et tout, des fois, c'est compliqué de jouer là. Donc, on va voir.
Penses-tu qu'il y a mieux jouer aux États-Unis ou dans l'Ouest, le CF Montréal?
Ben, je te dirais qu'ils aiment probablement mieux jouer dans l'Ouest parce que à Vancouver, c'est un synthétique aussi. Fait okay. Que ça a des avantages parce que Montréal, toute la semaine, les pratiques sur un synthétique. Donc, veux pas, ça les aide un peu plus. Puis, aux États-Unis, la foule est plus bruyante que. En fait, à Vancouver, puis à Toronto aussi. Aux États-Unis, les stades sont remplis. À Atlanta, il peut rentrer 60 000 personnes. À Charlotte aussi. Donc, c'est sûr que là, ça joue. Puis, tu sais, c'est beaucoup plus difficile là, pour le Montréal. Justement, tu peux pas t'entendre. Tu parles sur le terrain. Le coach parle aux joueurs. Ils entendent pas. Donc, c'est compliqué. Là.
Je veux aussi que le gardien de but du CF Montréal a quand même bien joué. C'est un Québécois en plus, je savais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de sa partie, même s'il a accordé deux buts?
Ouais, ben il a très bien joué, Jonathan Serrois. Mm-hmm. C'est un joueur de l'Académie. Quand il était jeune, là, il l'a envoyé en prêt dans une ligue un peu supérieure, là, inférieure plutôt, pour qu'il redevienne le bon gardien qu'il était. Puis là, ça marche bien. Il est arrivé, le premier match qui est arrivé, il a remplacé Pantémis sur blessure, un autre Québécois. Puis il a très bien fait, mais bon, les victoires, ça venait pas, il faisait des gros arrêts clés. Puis là, il est récompensé avec une victoire. Même s'il a donné deux buts, il a fait des arrêts clés, des bons arrêts pour regarder son équipe dans le match. Puis il le mérite. C'est un bon gardien. Est-ce que ça va être le gardien de l'avenir pour Montréal? Je sais pas, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de bon gardien au CF Montréal, mais pour l'instant, il va bien. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui va garder. En plus, le troisième gardien, qui est en ce moment le deuxième gardien, ça fait très longtemps qu'il a joué un match professionnel, donc ça serait certainement pas lui là qui va venir le chambouler.
Sinon, est-ce qu'il y a des blessures ou des joueurs qu'on attend de voir jouer, qui n'ont pas encore joué cette saison, qui vont peut-être aider?
Ouais, ben là, il y a des retours de blessures. Là. Mm-hmm. Torkelsen, qui est l'Islandais, qui est revenu au jeu. Waterman, qui est revenu au jeu. Piet, là, il était blessé le dernier match. Donc là, Piet, quand il va revenir dans l'alignement, ça va aider. Il y a également, Milievic, qui est un milieu offensif, qui va amener du punch à l'avant, qui est blessé. Quand il va revenir au jeu, ça va faire du bien, ça aussi. Mais ouais, l'infirmerie du CF Montréal, en ce moment, ça va pas très bien. Là, il y a beaucoup de joueurs blessés. Mais bon, quand tout ce beau monde-là va revenir en forme, j'imagine que ça va bien se passer. Mais ça reste qu'il y a encore des joueurs qui sont là et qui performent comme à chaque match. Là.
Aussi, le défenseur, si je ne me trompe pas, Corbeau, a signé pour 2 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact ou pas? Il en parle beaucoup dans les nouvelles, en tout cas.
Ouais, ben Corbeau, c'est un joueur qui a joué l'année dernière. Il était un peu dans la rotation, mais quand il embarquait sur le terrain, il faisait bien. Puis on a besoin un peu de certains joueurs à ce poste-là parce que bon, on a des blessés. Puis tu sais, au début de l'année, Piet, il fallait qu'il joue en def centre. C'est pas vraiment sa position. Fait que là, Corbeau, c'est un joueur de renfort qui va pouvoir venir jouer dans la défense centre. Puis justement, il est en forme en ce moment. Fait qu'il a le temps de. Tu sais, il peut arriver, prendre son temps, peut-être un peu moins de temps justement qu'il avait peut-être besoin. Donc, il va être en forme très rapidement, il va pouvoir embarquer sur le 11 partant. Puis, c'est sûr, on va probablement jouer à 5 défenseurs. Mais peut-être que aussi, on sait qu'on a des défenseurs convoités, des défenseurs centres, Miller, Waterman, qui pourraient peut-être partir en Europe. Donc, s'il y en a un qui part éventuellement, ben, notre ami Corbeau va prendre sa place. Puis, ça va pas vraiment te déranger en tant que tel. Là.
Juste un retour plus sur la ligue. As-tu des trucs qui t'impressionnent, des équipes qui font mieux que tu pensais, ou au contraire, si on parle pas juste du CF Montréal, juste de la MLS en général?
Ouais, ben il y a plusieurs équipes qui impressionnent. Il y a Saint-Louis, qui est la nouvelle équipe d'expansion de la MLS, Saint-Louis City, qui jouait avant en Division 2 pour un peu faire en sorte que le collectif arrive dans l'équipe. Ils savaient qu'ils allaient être à MLS, donc là, ils sont à MLS, puis là, 4 premiers matchs, 4 victoires. Donc, ils n'ont pas encore perdu, puis ça, c'est quand même très fort. C'est la première fois qu'une équipe d'expansion est à 4 victoires, donc ils ont brisé plein de records. Premier match de journée, ils ont joué contre Austin. Personne, tout le monde les voyait se faire éclater. Austin, qui est une bonne équipe, ils ont fini 3e de la MLS l'année dernière. Puis ils ont remonté, ils perdaient 2-1, ils ont gagné 3-2. Donc déjà là, ça mettait à table, on se disait « OK, il faut falloir les surveiller ». Puis là, par la suite, victoire 3-1, victoire 2-1, victoire 3-0 lors du dernier match. Donc sans équivoque, c'est la meilleure équipe de la MLS en ce moment au niveau du classement. Puis c'est une très bonne équipe, il va falloir surveiller aussi. À domicile, c'est bruyant, il y a beaucoup de partisans, puis l'ambiance est très bonne. Tout le monde est en rouge, donc c'est vraiment un beau stade qu'ils ont, puis vraiment une bonne équipe avec un bon coach, des bons jeunes joueurs, des joueurs européens aussi qui ont joué dans les plus grandes ligues, notamment le gardien de but. Ça va être un des meilleurs de la MLS, puis ils ont une bonne équipe, puis peut-être que, je sais pas si ça va continuer comme ça, mais là, en tout cas, avec 4 victoires au début de l'année comme ça, je pense que tu continues un peu, assurément, tu vas avoir une place en séries éliminatoires.
Comment ça marche les expansions dans cette ligue-là? Est-ce que c'est comme dans les autres sports? Sont-tu allé chercher des joueurs de chaque équipe?
Il y a un repêchage d'expansion. Okay. Puis chaque équipe, en fait, va dire moi, je vais laisser protéger tel joueur, je vais laisser partir tel joueur. Donc, Montréal, il n'y a personne qui a été pris. Saint-Louis a pris personne dans Montréal. Okay. Mais par la suite, Saint-Louis aussi, dans l'entre-saison, peuvent signer des joueurs de n'importe où, en fait. Ils peuvent signer des joueurs en Europe, peuvent signer des joueurs. Ils ont des joueurs désignés qui peuvent signer. Donc, s'ils ont beaucoup d'argent, si la franchise a de l'argent, ils peuvent aller chercher plein de joueurs en Europe. Mais si la franchise n'a pas trop d'argent, bon, c'est compliqué. Tu peux faire des échanges avec la Ligue. Donc, en gros, là, tu peux avoir une bonne équipe d'entrée de jeu, mais c'est juste que c'est ton début, c'est tes débuts dans la Ligue. C'est plus ça qui est compliqué. Mais je pense qu'ils ont bien fait. Ils ont fait ils ont renforcé l'équipe, sont allés chercher des très bons joueurs. Puis, bon, il y a une académie par la suite. Là, ils vont essayer de développer le soccer pour les jeunes. Puis, par la suite, avoir de la relève qui va s'en venir. Mais pour l'instant, c'est une bonne équipe. Pour les années à venir, je sais pas. Mais en tout cas, dans le présent, en fait, c'est une très bonne équipe.
Parce qu'il va y avoir une autre équipe qui va s'ajouter pour l'expansion, puisqu'on est à 29, la Ligue est à 29 équipes. Il en manquerait une, mais il semble, dans l'Ouest, pour que ça soit 15-15 de chaque bord. Mm-hmm. Penses-tu que ça va arriver? C'est-tu dans les plans de la Ligue? Ou...
Ben, je pense que oui, éventuellement, mais c'est sûr qu'on peut pas aller au Mexique parce qu'il y a déjà une ligue-là. Okay. Donc, ça se devrait aller aux États-Unis. Puis, il y a des équipes, là, Sacramento, par exemple. Donc, il y a certaines équipes qui voudraient monter. Tampa Bay aussi. Mais après ça, c'est parce que c'est difficile de monter des équipes qui sont en deuxième division. En fait, la deuxième division aux États-Unis, c'est vraiment pas le même calibre. Puis déjà, c'est très difficile au niveau financier de monter une équipe jusqu'à MLS. Donc, ça prend beaucoup d'argent. Puis je pense que le plus facile, ça serait en fait de monter une équipe de A à Z, en fait. Tu te dis, OK, telle ville, on va faire une équipe. Mettons, à Détroit, on va faire une équipe, pour on va la monter. Ça serait un peu plus... Ça serait ça qui serait facile, des gens qui ont de l'argent, qui veulent implanter une équipe. Parce que monter une équipe qui est déjà établie, ça prend beaucoup d'argent. Puis l'argent, en deuxième division, aux États-Unis, il n'y en a pas vraiment, là.
OK. Penses-tu que... T'as-tu d'autres choses à dire sur la Ligue, sur le CF Montréal, que dans tes notes que tu avais prises? Ou...
Ben, écoute, le CF Montréal, pour l'instant, c'est un petit peu... C'est compliqué, mais en tant que tel, ça va bien se passer. Mais ça reste qu'il y a également une autre compétition, le championnat canadien. Ouais. Donc, en première, ils vont commencer pour affronter, en fait, l'équipe d'Ontario. Donc, ça, c'est même pas une ligue professionnelle, une ligue... Ben, on peut l'appeler semi-pro. Donc, ils vont affronter les gagnants de cette ligue-là en Ontario. Donc, c'est Vaughan. Puis, il y a également Laval, le FC Laval, qui va jouer dans cette compétition-là. Donc, ça, c'est le championnat canadien. L'équipe qui l'emporte va jouer la Ligue des champions. Donc, Montréal, qui, même s'ils ont un peu plus de saison, en difficulté à MLS plutôt, ben ils vont être en mesure peut-être de se qualifier pour la Ligue des champions, justement en faisant bien dans le championnat canadien. Donc la saison, même si elle est mal partie, bon, il y a eu une petite lueur d'espoir. Ça reste que faut pas dire que c'est fini, parce que ça fait juste 4 matchs de jeu, puis une saison, c'est très long.
Il y a combien de matchs dans une saison, normalement?
Ben, ça varie parce que, en fait, il y a plusieurs équipes qui s'ajoutent, qui mm-hmm. s'enlèvent. Mais c'est ça, dans le fond, le CF Montréal ne joue pas contre toutes les équipes de l'Ouest.
Okay.
Il joue contre toutes les équipes de l'Est deux fois, puis il joue contre certaines équipes de l'Ouest une ou deux fois. Ben, une, en fait. Il y a certaines équipes de l'Ouest qui vont jouer une fois, mais par exemple, l'année dernière, le CF Montréal n'a pas joué contre LAFC, okay. mais ils ont joué contre les Galaxy. Donc, en général, une saison, c'est environ 33-34 matchs. Donc, okay. ça, ouais, ça reste à voir, là.
Penses-tu que leur participation aux Coupes du Canada va leur donner peut-être le temps de se pratiquer ou peut-être de s'améliorer, ou ça va plus les brûler pour le reste de la saison?
Ben, je pense que ça va les aider parce que justement, ils vont faire reposer certains joueurs, puis il y en a d'autres qui vont vouloir se prouver. Donc ça peut aider. En même temps, c'est juste que si tu vas trop loin en compétition en championnat canadien, ben, ce qui arrive, c'est qu'en MLS, t'es peut-être un peu moins de forme, t'es peut-être un peu moins performant. Comme l'année dernière, on était en Ligue des Champions au début de l'année. Là, on mettait tout en Ligue des Champions, on donnait nos espoirs là, on a passé le premier tour. Mais là, après, en MLS, on gagnait pas. On était 0-4 en début pour commencer l'année. Donc là, c'est sûr que c'est compliqué. Mais bon, là, il n'y a pas ce problème-là. Peut-être plus tard dans la saison, il va y avoir le championnat canadien qui va venir un peu bousculer le tout. Mais on peut quand même acheter des joueurs à l'été ou au mercato. Donc, ça reste à voir si CF Montréal pense qu'il serait bon d'acheter des joueurs. Ce que je pense qu'il devrait faire, là, acheter certains du punch à l'attaque, notamment, bien, ils pourront le faire. Puis justement, ça va faire des joueurs de plus pour entrer dans la rotation, là.
Est-ce que tu vas aller voir un match cette année? Y a-t-il un voyage de prévu, quelque chose?
Ouais, ben c'est sûr que je vais y aller. C'est sûr, là, déjà en fin de semaine, j'avais des billets pour y aller. Finalement, bon, j'avais quelque chose d'autre, mais c'est sûr, je suis sûr que je vais y aller. Le 15 avril, le premier match au Stade Saputo, je vais y être. Puis également, à chaque année, en fait, ça, c'est le sport américain. Tu sais, fait qu'il y a les matchs des étoiles. Mm-hmm. Puis là, le match des étoiles, cette année, ça va être Arsenal, une équipe d'Angleterre qui va venir jouer contre les étoiles de la MLS. L'année dernière, avec Cameron Miller de Montréal qui a joué à ce match-là. Donc, ça va être à Washington. Donc, probablement que ça je regarde. Là, Arsenal, c'est l'équipe que j'aime bien. Donc, probablement que je vais peut-être y aller. Ça va dépendre du prix et tout. Mais ouais, c'est assez intéressant qu'ils fassent ça parce que, en tant que tel, c'est une grosse équipe. Puis la MLS, les étoiles de la MLS, quand tu mets les meilleurs joueurs ensemble, c'est surprenant. Donc, ils peuvent donner une très bonne opposition.
Est-ce qu'ils jouent à 100%? Ben, peut-être pas à 100%, mais est-ce que c'est plus fun que, mettons, le match des étoiles dans les autres sports?
Ouais, vraiment, parce que en fait, tous les joueurs ont quelque chose à prouver un peu. Puis okay. tu sais, tu joues contre un gros club. Fait qu'en même temps, tu veux te prouver, montrer que tu as cette place-là, en fait, que tu peux jouer dans un grand club d'Europe. Il y en a qui sont encore jeunes, puis il y en a qui, bon, ils jouent juste là pour le fun. Mais en tant que tel, tu sais, l'autre équipe, Arsenal, elle arrive, sa saison est finie. Donc, leur saison, ils sont en préparation pour la prochaine saison. Donc, ils sont en off-season, ils sont pas tout ça comme ça. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils se donnent, puis ils veulent justement se mettre le plus rapidement possible en forme. Puis en ce moment, c'est la meilleure équipe d'Angleterre au classement. Fait que c'est vraiment un bon coup de marketing qu'ils ont fait, là.
Puis la saison, justement, du côté de l'Angleterre et tout, c'est qui les favoris et tout, là?
Ben là, en Angleterre, c'est ça, Arsenal premier avec 5 points d'avance sur Manchester City.
Mm-hmm.
Sauf que la particularité, c'est qu'Arsenal a présentement un match en moins et tout. Puis, bon, Manchester City, ils jouent une compétition européenne, donc eux, ils veulent remporter la Ligue des Champions. Fait qu'ils sont vraiment focus là-dedans. Puis, ils vont avoir plus de matchs. Donc, ils vont avoir un match samedi, un match mercredi, un match samedi. Donc, vraiment, les matchs vont s'accumuler, tandis qu'Arsenal va jouer chaque fin de semaine. Donc, ils n'auront plus de compétition. Fait qu'Arsenal va pouvoir mettre sa meilleure équipe à chaque semaine. Donc, probablement que c'est eux qui vont l'emporter. Il reste plus beaucoup de matchs. Là, il reste moins de 10 matchs là-bas. Donc, 10 ou 11, là. Donc, l'Arsenal qui est les favoris pour l'instant. Mais dans cette ligue-là, tout peut changer à chaque moment. C'est pour ça que c'est une des meilleures ligues du monde, si c'est pas la meilleure. Donc, ça reste à voir, mais je pense que ça va être une très bonne tour jusqu'à la fin de la saison parce qu'Arsenal va affronter Manchester City. Donc là, l'écart pourrait se réduire à 2 points. Donc, ça va être à voir.
Puis pour la Ligue des Champions, c'est qui? Tu as parlé de Manchester City. Est-ce que c'est eux les favoris ou est-ce qu'ils sont encore dans la course?
Ben, c'est dur à dire. Ils sont encore présents. Là, c'est les quarts de finale. Là, okay. Donc, le draw a été sorti. En fait, le tirage. Manchester City qui va avoir le Bayern Munich. Ça, c'est une grosse équipe. Il y a un Canadien, mm-hmm. Alfonso Davies, dans cette équipe-là. Okay. Donc, ça va être un gros match pour Manchester City. Fait que je serai vraiment l'équipe qui va l'emporter, ce match-là, va emporter la Ligue des Champions. Parce que okay. vraiment, c'est deux équipes que j'avais parmi les favoris, mais là, ils s'affrontent très tôt. Puis, c'est ça. Il y a même le Real Madrid qui est à surveiller. Ils ont remporté l'année dernière. Donc, je pense que c'est probablement entre le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich qui ont une chance de gagner. Mais c'est sûr que le Real Madrid s'en va en finale. Là. Ils ont un chemin quand même assez c'est facile, ils affrontent Chelsea. Par la suite, le tirage va être refait. Donc, probablement qu'ils vont affronter une équipe qu'ils vont pouvoir battre parce que c'est une très bonne équipe.
Est-ce que tu dirais que la Ligue des Champions, c'est comme la Ligue à gagner pour un club?
Ouais, écoute, quand admettons, t'as deux championnats, puis ça va mal dans ton championnat domestique, tu peux tout abandonner puis aller pour la Ligue des Champions. Là. Chelsea, en ce moment, ils sont 10e en Angleterre, 19e, puis la Ligue des Champions sera encore de finale. Donc, en ce moment, à ce niveau-là, je pense que les partisans, ils, assurément, qu'ils diraient on veut une Ligue des Champions en place d'avoir un championnat domestique, parce que c'est la Ligue des Champions en tant que telle, c'est vraiment le prestige. T'es la meilleure équipe d'Europe, donc t'es la meilleure équipe au monde. Fait que c'est vraiment quelque chose de... En fait, c'est particulier en portant la Ligue des Champions, puis c'est tellement dur que c'est sûr que les équipes, lorsqu'ils se rendent loin, ils veulent tout donner. Là.
Revenant sur le match des Étoiles, MLS contre Arsenal, est-ce que tu penses qu'il y a un joueur du CF Montréal qui pourrait se faufiler dans l'alignement des Étoiles de la MLS?
C'est une bonne question, ça. Je vais me demander, justement. Puis je pense que, pour l'instant... Peut-être un peu trop tôt, mais probablement que Romel Kyoto a deux buts. S'il continue comme ça, parce que probablement que si le CF Montréal marque beaucoup de buts, ça va venir de Kyoto. Là, en ce moment, il a mis deux buts importants. Romel Kyoto qui pourrait y être, il n'a jamais été. Puis sinon, probablement un défenseur, mais là, je pense que malheureusement, ça va être impossible les défenseurs parce qu'on accorde beaucoup de buts. Même là, on a gagné, on accorde des buts, donc je pense pas qu'il y aura de défenseur à ce niveau-là. Donc probablement Kyoto, c'est notre meilleure chance, mais comme à chaque année, il y a très rarement des joueurs de Montréal, donc probablement qu'il n'y en aura pas cette année non plus.
Bon, ben merci Félix pour cette passe sur le soccer. Maintenant, on peut parler des autres sports, surtout le hockey, les séries approchent.
Ouais.
Comme on avait dit, dans l'Est, la course, ça fait un peu longtemps qu'on en a parlé, mais la course est un peu plus chaude, surtout pour les derniers spots de série. Qui tu penses qui va rentrer, les deux équipes qui sont peut-être dans le wild card là?
Ben, écoute, on en a parlé, là, les Pingouins. Là. Mm-hmm. Les Pingouins, en ce moment, ça va pas très bien, 4 défaites de suite.
Mm-hmm.
Mais les Pingouins, quand ça arrive vers la fin de l'année, là, ça joue du gros hockey, puis Crosby qui manque les séries, ça serait... T'sais, c'est un crime, ça marche pas. Je sais pas pour
ouais,
toi,
mais... ça fait. Ben, tu sais, ils comptent leur. La saison pandémie, là, où ils avaient perdu contre Montréal, ils avaient compté ça, les séries, même si le trois quarts de la ligue le faisait. Mais je pense que ça fait 19 ans qu'ils font neuf ligues de quoi de même, là.
Non, ça, c'est impressionnant, c'est ça.
Donc,
je les vois pas sortir, tu sais. T'as même, tu sais, malgré que, bon, peut-être sa quatrième ligne, il n'y a pas des gros joueurs, mais Malkin, Le Temps, Crosby, c'est quand même des joueurs d'expérience, là. Puis au pire, ils se font éliminer en première ronde, mais. T'sais, je les vois vraiment se qualifier. Je pense qu'en ce moment, ils sont un point out puis ils ont eu 4 défaites de suite. Donc, ça va bien pour eux. Après, ça va être serré. Ça dépend aussi du calendrier qu'ils ont. Là. S'ils affrontent des grosses équipes, ça va peut-être un peu plus dur.
Ouais, ben, ouais, comme tu dis, ils sont un point en bas de Floride qu'eux. Ils sont vraiment remontés avec leur début d'année où on pensait peut-être que c'est
ouais, le pic qu'on aura. Comme allons voir Connor Malone avec ça, avec le repêchage.
Ben, c'est ça. Puis là, mais aussi, ils ont une game de moins que les Islanders de jouer. Puis ils sont à 2 points. Donc peut-être que contre eux, s'ils gagnent la prochaine partie, ils vont voir peut-être le tiebreaker. Sinon, je pense que c'est juste ces trois équipes-là qui restent. Est-ce que tu as peut-être de l'espoir, peut-être les Sénateurs, les Sabres qui sont pas trop loin, là, peut-être 5-6 points? Penses-tu que c'est possible? Ou
Ben, les Sénateurs, on dirait que c'était possible par un moment. Mm-hmm. Si tu allais chercher chez Grum, tu te dis, OK, les Sénateurs, ils veulent faire, ils veulent y aller, sauf que là, ils sont un peu 6 points out. Il reste plus beaucoup de matchs. Faut que tu l'emportes. Là. Faut que tu gagnes 6 matchs de suite à peu près. Ou, parce que les autres équipes à la veille vont en gagner aussi. Donc, je pense que ça va être très compliqué à ce niveau-là. Mais bon, les Sénateurs, ils peuvent toujours. Mais je pense que ça serait compliqué. Je pense qu'en ce moment, c'est pas mal de nuit à 3 équipes. Puis tu regardes les matchs de Pittsburgh. T'affrontes 2 fois les Red Wings, qui ont plus d'équipe, en fait. T'affrontes les Prédateurs également. Puis tu vas affronter les Flyers, puis les Blue Jackets et les Blackhawks. Donc, il reste beaucoup de matchs. On le sait, dans la Ligue nationale, on sait qu'ils ne gagneront pas tous ces matchs-là, mais ça reste que c'est une bonne opportunité. Puis si les Pingouins ratent les séries, ça va vraiment être de leur faute. Tandis que les Sénateurs sont 6 points out, je pense. Ça, c'est sûr que ça va être plus compliqué là, de remonter. Là.
Oui, il reste juste 12 matchs en plus. Donc, le maximum de points que tu peux aller chercher, c'est dans la vingtaine. Donc, ça sera pas évident.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux pas quand t'es 6 points, à dehors faire les séries éliminatoires. Tu sais, un petit peu le moral aussi, ça rentre là-dedans. Là, t'as donné au deadline, justement, à date limite de transaction, t'as donné pour être bon. Puis là, ça fait un peu mal. Mais je sais pas, toi, tu penses que les Sénateurs, ils peuvent faire les séries? Ils ont une bonne équipe.
Ils ont eu une bonne série en sortant justement du deadline après l'All-Star. Puis là, ils ont recommencé à perdre. Mais comme tu dis, peut-être les matchs vont être en leur faveur. Mais quand il reste 12 matchs, là, même si c'est 6 points, 6 points dehors, faudrait... C'est dur à calculer. On a souvent dans la tête, ils ont juste à gagner leurs 3 prochaines games, mais il faudrait que...
Ouais, c'est ça. Faut que les Islanders y perdent aussi.
Ouais, c'est les Islanders, les Panthers, les Penguins perdent aussi. Donc, il faudrait quasiment qu'ils gagnent 10 matchs sur 12, qui est qui est quand même toute une tâche pour cette équipe-là. Aussi, le Canadien, je pense, exauce nos souhaits. Ça va,
ouais.
c'est vraiment pas fameux depuis longtemps, mais tant mieux. Je pense qu'on est la quatrième pire équipe de la Ligue. Ça, c'est vraiment pas si pire. Je pense qu'on va avoir des bonnes chances à la loterie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu veux que continue comme ça ou t'aimerais voir une bonne fin de saison?
Alors c'est sûr que je veux continuer comme ça. Mm-hmm. En même temps, je veux des bons matchs aussi, comme ça a été le cas. Tu sais, ils ont battu Pittsburgh, bon, OK, mm-hmm. c'est correct. Une victoire de temps en temps, mais tu sais, le match contre l'Avalanche, il y a eu beaucoup de buts, donc c'est pas si pire, mais en même temps, c'est sûr que ça va être plate pour le moral des joueurs des Canadiens. Mais nous, on le sait tous, là. Même Legault, il veut qu'on aille avec Connor Bedard, fait que, tu sais, rendu là, mm-hmm. je pense que tout le monde le sait. Qu'est-ce que le Canadien veut? Mais là, on est des quatre pas de la Ligue. Est-ce qu'on va vraiment l'avoir? Je sais pas. Les chances sont minimes, mais tout se peut. Puis bon, ça serait le fun. T'sais, même un show de repêchage top 3, à tout moment de la journée, je le prends. Là, donc le but, c'est en fait d'être le plus poche possible. Puis en ce moment, ça marche. Okay.
Bon, ben on va aller en pause avec ça. Puis on continue de parler du monde du sport après. La semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Je suis seul dans la rue, devant chez toi. compagnie. Que pour ce soir, que pour ce soir. Nos amours sont mortes et je n'ai plus de feu. Mais ouvre-moi ta porte quand on se sent seul.
Et Aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et Aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et Aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Bienvenue à Condition Antisportive à Chez 94.3. C'était Seul à deux de Éric Charland. Maintenant, un peu dans la même veine qu'on vient de parler du hockey, on va parler un peu de la course aux séries du côté du basketball américain, de la NBA. Je vais commencer par faire un petit retour sur notre équipe nationale, les Raptors. C'est l'équipe canadienne qui joue en dessous de 500, qui sont 9e dans leur division. Donc, ils sont en bonne place pour faire le play-in, qui est comme un petit tournoi pour rentrer dans les séries. Heureusement, je crois que les équipes qui sont autour d'eux, comme les Bulls, les Hawks et le Heat, sont des équipes qui sont capables de battre. Les Raptors ont quand même une bonne équipe. Les analystes pensaient que justement ils allaient plus vendre, justement, peut-être essayer de faire de la place pour la masse salariale ou aller se chercher des choix à repêchage durant la limite des transactions. Mais tout ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils sont allés chercher un joueur de centre qui leur manquait. Un ancien joueur, justement, qui a joué des années avec les Raptors, qui est parti pour l'échange pour Kawhi Leonard, que lui nous a amené un championnat, qui est Jakob Poeltl, qui joue très bien. Et là, ils ont essayé de faire un petit push, justement, pour les séries. Et là, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais il manque beaucoup de constance, je trouve, du côté des Raptors. Des fois, ils peuvent battre tout le monde, mais des fois, ils peuvent perdre contre n'importe qui. Donc,
on se qualifie, tu penses?
Ben là, ils vont, d'après moi, je pense pas qu'ils vont sortir du play-in. Donc, ils ont la chance du play-in. Je pense qu'ils peuvent battre les Bulls, mais tu sais, dans les sports où c'est des séries 4-7 en série.
C'est vraiment la meilleure équipe qui gagne.
Ouais, c'est que tu sais, quand tu joues en play-in, tu n'es pas habitué de jouer une game aussi autant importante que ça, tu sais, comme au football. Donc, il peut y avoir des surprises. Puis justement, c'est un manque de constance qu'il y a eu de toute l'année, ce qui explique qu'ils sont très proches du 500, justement.
Ouais.
Une partie sur deux, ça va bien. Donc, mais tu sais, l'équipe est là, elle n'est pas vraiment différente de l'année passée. C'est les mêmes entraîneurs. Donc, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi ils se qualifieraient pas. Là. C'est sûr que peut-être si les Nets ils continuent à descendre, c'est les Nets qui ont fait le ménage pas mal qui ont perdu ils ont perdu pas mal toutes leurs stars, mais ils avaient très bien commencé l'année avec justement leurs stars. Donc peut-être si eux ils se ramassent dans le play-in, peut-être ça va être une victoire un peu plus facile pour les Raptors, parce que les Nets sont clairement pas une équipe bâtie pour faire les séries en ce moment. Puis sinon, il reste juste à peu près une dizaine de parties, là, un peu comme au hockey. C'est un peu plus que 70 pour toutes les équipes. Il y a quelques équipes qui se sont déjà qualifiées, seulement 3, même s'il reste juste 10 parties. Donc, ça explique la parité qu'il y a des deux côtés, dans l'Est et dans l'Ouest. Les Bucks, depuis quelques années, justement, qui sont... qui sont premiers dans le top 3 dans l'Est et qui sont déjà qualifiés avec Giannis qui a encore une super saison. Aussi les Celtics qui étaient finalistes l'année passée qui ont malheureusement pas pu battre les Warriors qui ont aussi qualifié leur place. Malheureusement pour eux, il y a eu une rumeur qui joue aujourd'hui que Jaylen Brown, un de leurs deux joueurs étoiles qui était incertain de son futur avec cette équipe, des messages cryptiques, donc ça c'est vraiment pas bon signe, surtout dans la situation qu'ils sont où ils gagnent depuis quelques années, puis ils ont la fondation pour te rendre jusqu'en finale. Je pense que qu'est-ce que tu peux demander mieux pour comme situation pour tes joueurs. Aussi du côté de l'Ouest, mais il y a les Nuggets, ils ont peut-être qu'ils n'ont pas une autant bonne saison que l'année passée, mais ils continuent de bien faire. Puis Nikola Jokic est encore le favori pour gagner le MVP. Ça serait 3 ans d'affilée pour lui. Qui serait quand même...
Ça lui manque juste un championnat, là, lui. Faudrait qu'il...
Ouais, c'est ça.
Faudrait qu'il gagne... Faudrait qu'il gagne les séries, lui.
Ouais, c'est sûr, mais trois ans d'affilée MVP, je pense que tu sais de cimenter ta place dans le temple de la renommée quand même, mais... Mais tu sais, aussi, c'est un joueur européen aussi en plus. Fait que tous ces records qu'il y a eu dans les ligues aussi l'autre bord de l'océan qui compte dans le top de la renommée. Donc, comme tu dis, je pense que lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment le championnat. Là, mais comme il y a tellement de parité, donc ça sera vraiment pas évident. Puis ça fait quelques années justement qu'ils sont tout le temps dans cette situation-là. Puis est-ce que l'équipe a vraiment changé? Donc c'est vraiment à lui de peut-être d'élever, je sais pas si c'est possible, là, mais d'élever son jeu pour vraiment faire gagner l'équipe. Toi, qui es plus qui regarde plus le NBA un peu moins que nous et qui est un peu moins familier, qu'est-ce que tu penses? Quelle équipe, toi, qui t'intéresse le plus, là?
Ben, moi, je regarde ça, puis j'ai envie de te demander les Celtics, parce que ça, c'est une équipe que je regarde un peu. Je sais que l'année dernière, ils se sont rendus en finale. Là, penses-tu que, tu sais, justement, ils ont bâti sur ça. L'année dernière, ils sont allés en finale. Là, cette année, ça va bien. Déjà en série éliminatoire. Tu sais, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils affrontent les Bucks de Giannis, puis ça va être compliqué. Mais, tu sais, ils ont quand même une bonne équipe dans l'ensemble. Est-ce que tu penses que les Celtics peuvent se rendre en finale? Tu sais, peut-être pas gagner, mais parce qu'ils peuvent se rendre en finale. Penses-tu qu'ils peuvent, en fait, Celtics ou Bucks? Parce qu'il y en a une des deux qui va se faire éliminer, là.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'ils joueront pas contre, sauf si les deux s'en vont en finale de conférence, qui, si on se fie au classement, devrait être en faveur d'eux. Personnellement, moi, j'ai jamais été très haut sur les Celtics, en fait, même l'année passée.
T'es pas un fan de Tatum, toi?
Non, pas du tout. Pas du tout. Là. Je sais que c'est un bon joueur, mais il y a souvent le portrait d'une superstar, ce que je suis incapable de voir chez
lui. C'est vrai qu'il est bon, mais je pense qu'il est des meilleurs joueurs que lui.
C'est pas un LeBron James.
Embiid, ouais, très fort aussi.
Ouais, moi, je suis tout le temps haut sur les 76ers, puis ils me déçoivent à chaque année, donc j'essaie de...
Toi, t'es un gars de la ville de Philadelphie, tu vois.
Ouais, pas les Flyers, là.
Non, c'est ça. Plus avec l'affaire de Daniel Brière, ben, c'est encore moins les Flyers.
Là. Ouais, ben regarde, peut-être qu'ils vont faire des cas de mieux, là, du côté des Flyers, mais revenant des 76ers, c'est qu'ils sont vraiment bourrés de talent, là, plus que c'est la ville de Philadelphie, puisqu'on avait joué contre eux premier round, les Raptors, l'année passée, puis... il y avait beaucoup de parlage et tout, donc c'est vraiment pas le fun. Moi qui est un fan des Eagles, je sais comment les gens de Philadelphie sont quand tu joues contre eux dans la série, donc c'était vraiment pas agréable de voir les Raptors perdre l'année passée.
Mais c'est vrai que Philadelphie, sérieux, c'est une ville de sport. Mm-hmm. Tous les stades, j'étais allé voir un match là-bas, tous les stades sont à côté un de l'autre, donc c'est intimidant, puis il y a beaucoup de personnes qui vont voir les matchs aussi, donc c'est vraiment une ville de sport, puis les équipes sont toujours bonnes, tu sais, je veux dire, les Eagles, c'est une bonne équipe, les Flyers, bon, là, ça va pas bien au hockey, mais avant, c'était une puissance, là, puis les matchs les Flyers, ça brassait là, contre les Blues. Donc, Philadelphie, c'est un peu c'est un peu une ville de tough. Là, mm-hmm. Ça brasse là-bas. Là.
Ouais, tout ça pour dire que niveau talent, quand tu as Embiid qui a plus que 33 points par match pour un centre qui est absolument qui est incroyable.
Ben, 33 points, c'est gros. Là,
c'est ça, mais en plus, c'est un centre. Donc,
ouais, c'est pas un point de...
C'est ça, il va pas se mettre en arrière du 3 points. C'est ça.
Un meneur de balle, c'est ça.
C'est ça, il va pas se mettre en arrière du 3 points pour lancer le plus s'est lancé là. En plus, il y a James Harden, oui, qui commence à être vieux et qui est plus le James Harden qui avait un stretch d'une moyenne de 55 points pour
mais,
15
mais
matchs.
Mais il y a de l'expérience.
C'est ça, il y a l'expérience, puis c'est lui qui mène pour les assists dans la ligue. Donc, je pense que niveau personnel, je pense que c'est la meilleure équipe, mais je pense que ça fait 3-4 ans que je me dis ça aussi, puis à chaque fois, ils finissent par perdre, puis ils ont vraiment de la misère à battre les Celtics aussi, s'ils se ramassent contre les Celtics. C'est vraiment très, très dur pour les 76ers. Puis le reste des équipes, là, à partir de 4, les Cavaliers, c'est sûr que c'est une équipe qui surprend tout le monde, puisque quand LeBron James est parti, on a dit, OK, ils vont retourner dans l'ère qui était avant LeBron James, qui était vraiment... La grosse misère, mais là, ils ont réussi à bâtir très, très rapidement et puis à être dans un spot très favorable. Mais ça reste que ça ressemble à les Sénateurs, là, je trouve, au hockey, là, t'as beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs, là, qui, à un moment donné, peut-être que justement, le manque d'expérience, là, ouais. Ça va peut-être.
Jouer contre toi. Hein.
Ouais, c'est ça, ça va jouer contre toi à un moment donné. Puis aussi, les Knicks, c'est un peu la même chose aussi. Mais les Knicks, ce qui peut leur aider, c'est que c'est vraiment. C'est vraiment une des plus grosses villes de basket aux États-Unis, là, ouais. New York. Là, donc, eux, ils peuvent peut-être essayer de bâtir sur ça. Je parlais un peu des Nets tantôt aussi, là, quand on arrive dans le bas du classement des séries dans l'Est, les Nets que je pense qu'on a tous les analystes et tout le monde a de la misère à aller voir, à aller très loin avec la perte. Même avec Kevin Durant et Kyrie Irving, ça ne marchait pas. Ils se sont fait ramasser par les Celtics l'année passée à la surprise de tout le monde. Je vois pas que quand ces deux-là sont partis en quoi, il y aurait plus de chance. En plus, Ben Simmons, il est encore blessé. Tout plein de controverses autour de lui, comme toujours. Donc, ça augure pas très bien, mais ils ont, comme j'ai dit tantôt, tellement bien commencé que... Ils vont avoir une chanson au moins, donc peut-être ça va être le conte de fées le plus gros qu'on ait jamais vu. Puis le play-in, j'en ai parlé tantôt, on espère que ça va être les Raptors, on se croise les doigts.
Ouais.
Mais le Heat aussi, qui ont été en finale il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, il y a 2-3 ans, les Hawks qui ont une run surprise, qui sont deux équipes qu'on pourrait dire qui sont meilleures que les Raptors. Peut-être que les Bulls, j'aurais plus confiance. Mais je pense que les standings vont rester comme ça jusqu'à la fin de l'année du côté de l'Est. Donc, je pense que les Raptors, ils vont avoir la chance en play-in. Je pense que ça va être la première... Non, je pense qu'ils l'ont fait... Je suis plus trop sûr s'ils ont fait le play-in, mais j'ai hâte de voir ça. Là, ça va mieux là, quand même. Là,
ouais,
depuis,
mais c'est sûr que c'est toujours plus dur de voter pour son équipe là, que t'as à cœur. Là, mais bon, les Raptors, je pense que peut-être probablement qu'ils vont peut-être gagner un match. C'est un do or die, fait que rendu là, t'essayes. Mais j'ai une question pour toi. T'sais, t'as parlé de Durant, Kyrie Irving, ces gros joueurs-là. T'sais, dans le temps, le basket, quand on était jeune, ben, tu comprends dans le sens que c'était LeBron James, Curry, tous ces joueurs-là. Là, maintenant, ils se font vieux. La relève, c'est des gars comme Doncic, comme Embiid, mais parle-moi-en un peu plus justement de cette relève-là.
Je pense que ça va
c'est quand même des icônes du basket. Là,
ouais, mais comme tu dis, c'est. Mais là, on a. Tu sais, comme LeBron, il est là depuis longtemps, là, tu sais. Donc,
ouais.
Depuis qu'il est là, il y a comme. Le jeu a complètement changé. Puis Curry, ce qu'il a fait, lui, avec tous ses 3 points, il a complètement changé la game. Donc, je pense pas que c'est des icônes, tu sais, qui vont pouvoir, tu sais, un va remplacer l'autre tout le temps. Tu sais, Doncic, oui, c'est un peu dans la même veine que toi, c'est le meilleur joueur, je pense, de la relève. Mais est-ce que son style de jeu, tu sais, qui est plus lent, plus européen, plus vraiment basé sur le talent puis sur les skills, est-ce que ça va être vraiment une icône comme Curry puis LeBron? Je pense que la barre est trop haute, peut-être pour lui. Puis aussi, c'est tellement difficile avec toute la parité qu'il y a. Puis Doncic, même si il est plus jeune que moi, ou presque.
Ah, ouais, c'est ça, il est jeune.
Ou presque ses saisons, peut-être des autres ligues, là, ou même s'il continue. C'est sûr que l'année passée, ils se sont rendus en finale de conférence, là, mais s'il se rapproche pas du championnat dans les prochaines années, là, les questions, ouais, est-ce qu'on gaspille les années de talent, justement, de Doncic avec cette équipe-là vont commencer à ruminer. Puis la masse salariale qui monte tout le temps, surtout dans ces ligues-là où qui sont extrêmement riches. Là. En plus, on ne sent pas beaucoup de joueurs, donc ils ont tous que des contrats. Donc je sais pas c'est quoi. En plus, ils sont juste 500 là, avec Il avait bien commencé l'année. Mais là, ils ont acheté Kyrie Irving. Je pense que Mark Cuban a mis les efforts pour justement essayer de dépasser le push. T'sais, il en manquait pas gros l'année passée, là, finale de conférence contre les Warriors.
T'es pas si loin, mais en même temps, Doncic, c'est un an de plus, c'est un an d'expérience de plus, puis il peut ressortir encore plus fort. Donc, c'est sûr qu'après, en tout cas, les 4 de 7, ça se joue dans la tête aussi. Là.
Ouais, c'est ça. Mais là. Là, ils sont juste dans le play-in, là. Mais je pense que si, tu sais, il y a tellement de parité, comme je dis, puis des équipes comme les Kings là, qui surprennent tout le monde, là, est-ce qu'on peut vraiment croire en eux? Série 4 de 7, moi j'ai encore des doutes. Les Warriors sont revenus, ça peut être dangereux. Là, les champions de l'année passée qui ont pratiquement la même équipe, justement. Puis ils ont pas eu Curry pour une partie de l'année à cause des blessures. Puis Thompson, il reviendra pas à 100% comme il l'était quand c'était les Splash Brothers, mais il revient quand même peu à peu à la forme. Donc, mais il y a trop de parité, c'est tellement dur à dire là, dans la NBA. Là, puis là, t'essayes d'avoir le meilleur classement pour avoir tes matchs à domicile, comme on a pu en parler au soccer, comment ça peut affecter les équipes. Là. J'avais oublié justement comment c'était important dans les 4 de 7, les matchs à domicile.
Oui,
là.
Le match numéro 7,
ouais, c'est
devant
ça.
Ta foule, si mm-hmm. tu te rends là, c'est vraiment un avantage. Mais en même temps, tu sais, il faut que tu te rendes au match 7. Mais c'est sûr que tu aimes toujours mieux jouer à la maison que jouer à l'extérieur. Donc c'est sûr qu'il y a ça aussi. Mais ça reste que tu regardes ça, les équipes, oui, il y a beaucoup de parité, mais y a-tu une équipe qui sort du lot, mettons dans l'Ouest ou dans l'Est, peu importe. Là.
C'est ça, je suis pas capable de. Ben, peut-être les Nuggets, mais les Nuggets, tu sais, comme j'ai dit, ça fait 3-4 ans là, qu'ils sont en même situation. Puis quand t'arrives dans les séries,
faut que tu gagnes,
c'est
pas
ça,
le
ils stagnent, là, tu sais, c'est comme ils se font démasquer, en fait, là, puis ils ont de la misère à aller un peu plus loin. Donc, puis il n'y a pas eu vraiment le saut d'amélioration là, qu'on s'attendait. Tu sais, ils n'ont pas 60 victoires ou de quoi comme ça. Donc, peut-être les Suns, peut-être avec l'addition de Kevin Durant, eux aussi, qui sont allés en finale, qui ont perdu contre les Bucks il y a 2-3 ans, qui ont eu peut-être des échecs dans les deux dernières années. Mais là, ça va chercher Kevin Durant, qui est malheureusement tout le temps blessé depuis son temps avec les Suns, mais qu'en série, peut-être que ça peut faire tout que des dommages. Mais l'année passée, tout le monde croyait ça avec Kyrie Irving, Ben Simmons et Kevin Durant pour les Nets, et puis ça ne s'est pas passé. Peut-être aussi les Clippers, que peut-être que le monde ont tendance à oublier, puisque c'est l'équipe moins populaire de Los Angeles. Et puis, ils ont eu beaucoup de blessures. Là. Kawhi Leonard et Paul George, qui sont deux excellents joueurs, qui reprennent la forme de plus en plus. Donc, ça, c'est peut-être à faire très attention pour les équipes de l'Ouest. Là. Puis, dans la NBA, contrairement aux autres sports, tu peux. Je pense que c'est quasi essentiel d'avoir une superstar dans ton équipe pour te rendre jusqu'à la fin. Je pense. Je sais pas si c'est quand la dernière fois qu'une équipe qui a gagné qui n'avait pas de superstar. Donc,
ouais.
C'est peut-être. Je pense que peut-être que ça serait ces équipes-là, moi, que je regarderais plus. Les Grizzlies, j'avais confiance, mais là, avec toutes les controverses qui entourent Ja Morant et son addiction avec les fusils...
Ja Morant, c'est un bon joueur, mais on dirait qu'il a pris la tête depuis qu'il est parti du circuit universitaire. On dirait que c'est plus le même joueur. T'sais, j'ai regardé des highlights de lui quand il jouait au March Madness. Le gars était très fort, mais là, on dirait qu'il a pris la grosse tête et tout. Puis en plus, c'est une superstar, là, mais c'est juste que des fois, il y a, tu sais, entre la tête, ça, entre les deux oreilles, peut-être ça marche pas. Là.
Ouais, ben, on voyait que, tu sais, les Grizzlies avaient bâti une identité autour de ça, qui était d'être cocky, tu sais, des jeunes joueurs là, qui vont danser, qui vont parler aux autres. Mais là, je pense que c'est correct si tu grandis une identité comme ça, ça te fait gagner. Mais de là à en dehors, là, je pense qu'il faudrait avoir un peu de un peu plus de calme, là, surtout quand ça affecte ton équipe. Aussi, c'est sûr que ça va l'aider vu que c'est une superstar et puis il y a tout l'argent du monde. Donc Puis c'est quand même une icône, là, qu'on le veuille ou pas, là, même si c'est un bon joueur, il fait tout que des dunks, tout que des beaux jeux. Donc, il attire l'attention.
Ouais,
donc,
il attire les foules aussi, puis c'est un joueur que tu as envie d'aller voir jouer. Que...
Oui, c'est ça. Fait que c'est dommage, mais comme tu dis, des fois, entre les deux oreilles, on sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il a pris la tête ou il y a tout plein de mimes que peut-être que. C'est sûr qu'il y a eu la vie difficile, lui, si on écoute ses histoires. Là, c'était rough. C'est ça, mais c'est ça pour plusieurs joueurs dans ces ligues-là.
À ce niveau-là, professionnel, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits, mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai regardé aussi le classement. Les Pistons, 16 victoires cette année, puis ça fait 4 ans de suite qu'ils sont dans les bas fonds. Il se passe quoi à Détroit? Parce que Détroit, en plus, c'est pas tant un marché de sport en tant que tel. Ton équipe de basket, elle va pas bien partout. Ton équipe de hockey va pas très bien non plus. Là, maintenant, est-ce que tu penses que cette équipe-là est en danger? Parce que 4 saisons de suite dans les bas-fonds, dernier quasiment, ça donne pas vraiment le goût d'aller voir jouer.
Mais tu sais,
c'est une reconstruction là-bas?
Ils essayent, là, mais là, ça fait.
Ça marche pas, quoi.
Mais tu sais, Détroit, c'est quand même. Tu sais, c'est pas la ville de sport, mais tu sais, c'est pas si pire, tu sais, parce que, mettons que si on enlève le fait que toute leur équipe sont quand même misérables tout le temps, là, c'est quand même, tu sais, il y a quand même beaucoup de fans de sport qui vont là, tu sais, les Lions dans la NFL, là, si t'enlèves cette année, là, c'est vraiment la joke de comme franchise, mais tout le temps du monde.
C'est vrai que j'avais oublié d'en parler, mais eux autres sont pas bons non plus.
C'est ça, Détroit, s'ils n'avaient pas eu leur. S'ils n'avaient pas eu l'époque Steve Eisenman ou l'époque d'Atsuk Zetterberg, c'est quand même une joke aussi leur franchise. Donc, Détroit, je pense qu'ils essayent de build là-dessus. Puis, ça fait qu'il y a un peu d'empathie de tous les partis. Puis. Puis là, les Pistons, comme tu dis, ça fait une couple d'années, mais là, ils sont incapables d'aller chercher le premier choix. Là. Peut-être que c'est ça qu'il leur faudrait cette année. Peut-être aller chercher Victor Wembanyama, qui est l'espoir français que tout le monde veut, qui est un peu, mettons, qui est peut-être pas autant à la hauteur que Connor Bedard, là, mais que dans la NBA, je pense que ça fait presque 5 ans qu'on attend un prospect comme ça. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc, il y a peut-être ça, mais ils ont été malchanceux, tu sais, aussi, ils ont la loterie, là, comme dans la LNH. Donc, ils ont eu beaucoup de miss, justement, dans leur pic aussi. Donc, c'est sûr que ça aide vraiment pas dans ta reconstruction. Puis, bien que les fans sont quand même là, tu sais, pour une franchise qui est vraiment, qui a vraiment de la misère, c'est quand même pas un marché qui est attirant d'aller chez les Pistons pour.
Ouais, non, c'est ça. C'est sûr. En plus, quand t'es pas bon, t'as pas envie de jouer pour ces équipes-là. Puis, tu sais, c'est sûr, là. En même temps, peut-être ça prend justement un choix de repêchage pour monter. Tu sais, d'habitude, les équipes, ça se bâtit sur le repêchage. Justement, les Oilers Edmonton, là, Drezdale, McDavid, maintenant, c'est dans une bonne équipe. Tu bases ton équipe sur le repêchage. Fait que. Ça reste à voir. Puis, j'ai regardé ça pour le fun, là, l'équipe de baseball, les Tigers de Détroit. Ça va pas bien non plus. Ça fait depuis 2018 qu'ils ont pas fait les séries. Fait que, tu regardes ça, pas une équipe qui va bien à Détroit. Là.
Non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a quand même des marchés là, qui vont moins bien qu'eux, là, même s'ils sont vraiment pourris. C'est plus ça que je voulais dire. Mais, tu sais, c'est quand même pas. C'est pas Los Angeles. Là, le monde va pas faire hockey. Même si les Lakers, même s'ils sont pourris, le monde va vouloir aller jouer là.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est une différente réalité aussi. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a des marchés pas que ça dans la NBA. Là.
Ouais, puis, tu sais, les championnats qu'ont gagné, ça fait quand même longtemps. Ben, ils ont gagné dans les années 2000, là, mais avant aussi, ils ont toujours. Tu sais, les championnats qu'ont gagné, c'était tout le temps autour. Ils ont bâti des équipes dures qui ont bâti par eux-mêmes. Là. S'ils sont pas allés chercher des gros stars, là, c'était vraiment des équipe bien construite, bonne en défense, donc qui est plus vraiment très présente justement dans la NBA. Donc je sais pas comment. Puis dans la NBA, vu que tu joues juste peut-être à 8-9 là aussi, peut-être 10
t'as
maximum.
Pas besoin d'en remplacer en masse, là.
C'est ça. Mais c'est ça fait que les joueurs universitaires ils sont moins aussi. Donc c'est vraiment plus dur d'avoir le pic là, puis d'essayer de te bâtir comme avec des Connor McDavid dans la NHL. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont vraiment de la misère à sortir. Mais 16 victoires, c'est vraiment atroce. Là. C'est vraiment bad. Là.
C'est quelque chose sérieux. Je sais pas c'est quoi le record dans la NBA pour le moins nombre de victoires, mais ça doit être proche parce que 16 victoires, 53 défaites, je pense que c'est ça le. Hey, c'est quelque chose.
56.
Hey, c'est encore pas. C'est... Ouais. C'est parce qu'ils gagnent une fois à chaque quatre matchs. C'est, ouais, c'est littéralement
c'est ça. Ben, ils ont gagné quelques matchs à domicile. Là. Ils en ont gagné 9. Donc, au moins, ils en ont gagné un peu. Là.
Ouais, ça, mais, c'est ça. 9 sur. Il y a eu combien de matchs à domicile? Probablement une trentaine. Là, fait que,
ouais, proche
c'est...
de 40. Là. Il va en avoir 40 à la fin de l'année. Là.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. c'est quelque chose. Là,
mais, ouais, mais c'est ça. Je pense qu'ils s'approchent. Ils vont avoir les meilleures chances. À... Ben, tu sais, les. T'sais, si tu regardes dans l'Ouest, là, les Rockets, ils ont 18-54. Là. Donc, c'est vraiment pas fameux non plus. Là.
Ouais,
donc,
ça avec, c'est pas fort.
Donc, mais tu sais, les Rockets, ils sont plus dans une meilleure trajectoire. Là. Donc, les Pistons, c'est vraiment des points d'interrogation. Puis, comme je te dis, est-ce que tu as le goût d'aller jouer à Détroit? Tu m'en tiens à une star? Je pense
non,
pas qu'il
sûr.
Va vraiment.
La réponse, c'est sûr que c'est long.
Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment. Peut-être, j'ai de la misère à me voir avant 2030 s'ils vont essayer de vont remonter à 16 victoires. Là. Mais tu sais, la barre est tellement basse que tu peux, si tu fais pire que 16 victoires.
Tu peux que faire des progrès.
Oui, c'est ouais. ça. Pire que 16 victoires, ça serait vraiment catastrophique. Donc, ça fait le tour aujourd'hui. On a parlé un peu du CF Montréal et puis de la LNH et du basket. On a fait un peu le tour du monde du sport. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Conduite antisportive HS 94.3 et on se revoit la semaine prochaine.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Et au Québec, c'est Thierry Larose.
Tout devient tellement précieux quand il y en
reste. Mon nouvel album Sprint est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes d'écoute.
Je me croirais quand je la verrai. Est-ce que tu sens ton cœur battre dans ta poitrine?
C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du petit Béliveau. Le 14 avril, c'est Lou Adrian Casti qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir Petit Béliveau et Lou Adrian Casti les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbelle.com. Bon mardi à toutes et à tous. Une autre édition de Chérie, j'arrive commence sur les ondes de Chiz 94.3. Bienvenue à ce rendez-vous quotidien culturel en mode actualité locale émergente. Aujourd'hui, on parle de court-métrage. Le festival